Tout un monde.
Marie-Hélène Freissé.
Le magazine des cultures et des identités en mouvement. Bonsoir. Stratégie de survie. En situation extrême, quelles sont les ressources intérieures qui permettent de trouver des forces qu'on ignorait? Quelle stratégie conçoit-on? Et dans le cas d'une survie à plusieurs, quelles sont les limites de la solidarité? Nos deux invités de ce soir sont le guide saharien Éric Millet, qui publie un recueil de textes, Survivre, et la romancière américaine Jean Egland, qui publie un très beau roman intitulé Dans la forêt.
Get up and do it again.
Ils s'appellent Guillaumet, Joe Simpson ou encore Robinson Crusoe. Ils ont réussi à survivre à un crash en montagne, à un naufrage ou à un tremblement de terre. Ils ont trouvé en eux-mêmes des ressources qu'ils ne soupçonnaient pas. Ils reviennent. Il raconte. Le récit de survie, c'est un véritable genre littéraire qui peut être de l'ordre du témoignage, de l'aventure vécue, mais qui peut être aussi, bien sûr, de l'ordre de la fiction. Quand c'est bien fait, c'est palpitant, ça nous laisse en haleine jusqu'au bout, avec cette question toujours présente dans la marge de notre lecture. Qu'est-ce que j'aurais fait à leur place? Est-ce que moi aussi, j'y serais arrivée? Alors les deux invités de Tout un monde ce soir nous font partager ces moments critiques vécus de l'intérieur sous diverses latitudes. La romancière Jean Egland. Bonsoir Jean Egland.
Bonsoir.
Vous êtes de passage en France et vous êtes traduite par Marguerite Capelle. On est très heureux de vous accueillir pour ce très beau livre qui est une histoire de survie, mais de survie plutôt de résistance, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un acte héroïque très physique, il s'agit d'un monde qui petit à petit dénoue avec deux jeunes femmes les liens extérieur, et ces deux jeunes femmes qui vivent dans une forêt, on va dire, du nord de Californie, apprennent à se débrouiller toutes seules.
Thank you. I'm so happy to be here. And I can't wait to hear what d'être là. Eric has to say.
J'ai hâte d'entendre ce que Eric a à nous raconter et de discuter avec survival. Lui des questions de survie.
Alors cette catastrophe est une catastrophe lente dans votre roman. Elle est en marge du roman. On découvre ces deux sœurs, qui sont les deux héroïnes de votre roman, déjà en train de sentir le monde qui s'écroule autour d'elles. Elles s'appellent Nell et Eva. Cette catastrophe qui les a coupées du monde, des ressources, il n'y a plus d'essence, on ne peut plus aller en ville. Cette catastrophe n'est jamais déterminée.
That's right. We never exactly know.
C'est vrai, on ne sait jamais exactement ce qui s'est passé.
And I think that was very important because
pour moi, c'était important.
We never really understand history as it's happening.
Parce qu'on ne comprend jamais vraiment l'histoire au moment où elle se passe. C'est seulement de façon rétrospective qu'on peut identifier les causes et les effets.
I wrote this book almost a quarter of a century ago.
Et j'ai écrit ce livre il y a près d'un quart de siècle, mais même à l'époque, les choses semblaient fragiles. Il y avait des phénomènes climatiques extrêmes. Il y avait le terrorisme. Des inquiétudes sur l'économie.
Et toutes
ces problématiques s'additionnaient.
Et
j'imaginais une situation dans laquelle toutes ces problématiques allaient menacer un pays qui n'arriverait pas à faire face. Donc, dans l'histoire, c'est un mystère, mais il y a la suggestion que c'est une combinaison de différents phénomènes tous en même temps.
Et le cordon est coupé, mais c'est très progressivement que ces deux sœurs, qui vont perdre leur père rapidement, qui sont isolées dans la forêt, vont être amenées à trouver les conditions de leur survie. Il y a une sorte de fondue enchaînée entre la vie normale et la vie de survie.
Yeah, very much. And these girls, they're both
oui,
ambitious young women.
Et ces deux jeunes filles sont toutes les deux ambitieuses, sont des adolescentes. L'une veut aller étudier la médecine à Harvard, elle ne sait pas vraiment pourquoi d'ailleurs. L'autre veut être ballerine. Et elle travaille très sérieusement et elle a de bonnes chances d'avoir du succès dans cette carrière. Donc elles ont ces ambitions auxquelles elles s'accrochent, la seule vie qu'elles aient connue. Et elles attendent que tout reparte, que le courant revienne, qu'un avion passe au-dessus de leur tête. Et ça leur prend du temps pour réaliser que peut-être ça ne se produira pas.
Alors Eric Millet, ce qui se passe avec vos héros, qui sont eux des héros de l'aventure vécue, c'est que le choc, lui, en général, est brutal. Pas toujours, mais brutal. C'est-à-dire qu'il se trouve en quelques minutes, parfois, ou en quelques jours, confronté à un défi énorme. Alors, on va dire qui sont ces héros tout à l'heure, mais ce sont des vies, tout d'un coup, brutalement, qui prennent un autre tour.
Effectivement, il s'agit pour la plupart des personnages de ce livre d'un basculement, d'un véritable basculement. C'est-à-dire, on est, en gros, dans la vie normale, dans la vie de tous les jours, la vie simple, on va dire. Et d'un seul coup, par le fruit du hasard ou parce qu'ils se sont fourvoyés dans un système qui, à un moment donné, va mettre en péril leur processus vital, devoir, malgré eux pour la plupart, devoir faire face. En fait, ils n'ont pas le choix. Dans un premier temps, ils vont se mettre à attendre. C'est-à-dire, on est un peu, ce que disait tout à l'heure Jean, sur l'attente d'un système.
Ça va s'arranger. Ouais.
Voilà, c'est-à-dire, on est en gros dans l'espérance. Et on va voir que très rapidement, l'espérance dont on sait, dont on nous a rabâché l'idée qu'elle faisait vivre, on va voir que cette espérance n'est pas suffisante.
Alors ça, c'est quelque chose, Eric Millet, que vous-même, vous avez vécu, puisque vous êtes guide saharien, vous avez beaucoup voyagé à travers le désert, et vous êtes trouvé, notamment dans le désert de Gobi, une fois, dans une condition très limite.
Oui, c'est-à-dire que moi, j'avais la particularité, en tant qu'enfant des années Ushuaïa, de traverser les déserts en planche à voile à roulette, ce qu'on appelle le spitzel. Et à un moment donné, à l'époque, il faut quand même remettre ça aussi dans les circonstances de l'époque qui sont un peu différentes des circonstances actuelles. À l'époque, il n'y avait pas de GPS. Je disposais dans le désert de Gobi d'une carte en cyrillique, écrite en cyrillique, qui était complètement fausse. Et personne, je ne savais pas où j'étais exactement. Et j'ai fait une mauvaise option en pensant trouver des terrains beaucoup plus roulants à la limite de la Chine. Et puis là, je me suis enfoncé un peu plus dans le désert. Et d'un seul coup, tout est devenu un petit peu compliqué puisqu'on a perdu pas mal de nourriture. On manquait de nourriture.
Vous étiez plusieurs ?
À l'époque, j'avais une partie de l'armée mongole qui assurait, parce que c'est une histoire un peu extraordinaire. On est en 1991. Le désert de Gobi vient de s'ouvrir aux puissances étrangères. Hein. Il était sous le joug soviétique depuis 1929. Donc à cette époque-là, je crois que les Mongols avaient envie de redorer un peu le blason de leur pays, le pays du ciel bleu. On était plusieurs en lice à l'époque, je crois, pour traverser le désert. Il y avait Jack Lansman qui...
Qu'est-ce qui va déraper alors ?
Et ce qui va déraper, c'est qu'à un moment donné, je me suis laissé emporter par des vents portants qui m'ont été très défavorables et j'ai dû reprendre une route complètement différente. Et là, j'ai commencé à manquer de nourriture, à manquer d'eau, etc.
stratégie de survie aujourd'hui dans tout un monde. Alors Eric Millet, cette aventure que vous avez vécue à travers le Gobi va faire que vous en tâtez de la survie. Déjà, rapidement, avant qu'on parle des personnages que vous évoquez dans cette série de textes Survivre, qu'est-ce qui s'est passé pour vous ? Comment avez-vous d'abord accepté le fait que votre vie était en péril et comment avez-vous trouvé la solution, les ressources ?
Alors à partir d'un certain moment, je dirais, il y a un processus physique qui se met en route, qui nous échappe complètement, c'est-à-dire qu'il faut commencer déjà à se rationner, à éviter de boire, à commencer à envisager, je dirais, des jours meilleurs. La région dans laquelle je me trouvais était déserte, dans le sens où très peu de nomades campaient dans les environs. Et il a fallu très rapidement que nous nous rapprochions des maigres campements pour pouvoir récupérer de la nourriture. En ce qui concerne les survivants de mon livre, j'ai essayé de trouver différents types de survie. C'est-à-dire à la fois des survies sur le long terme et à la fois des survies sur le court terme. C'est-à-dire qu'il y a certains des auteurs, et dans la manière dont ils vont raconter leur histoire, a énormément d'importance aussi. Il y a des auteurs qui vont d'un seul coup être parachutés littéralement dans un autre monde, puisque là il s'agit d'un autre monde avec des valeurs qui sont complètement différentes de celles qui peuvent exister, et des gens qui vont, dès le départ, envisager la survie dans la durée.
Alors dans ces personnages, il y a des gens extrêmement divers. Il y a une certaine Isabelle Godin des Odonais qui traverse l'Amazonie. Hein. Il y a Nansen, bien connu. Il y a Guillaumet, aussi pas mal connu, avec ce grand classique donc Terre des Hommes, et puis avec le crash également de Saint-Ex. Hein. Il y a plus près de nous Joe Simpson, cette histoire absolument incroyable de la corde coupée par le compagnon de cordée lors d'un périple dans les Andes. Et là, ça pose la question essentielle qui est au cœur de ces récits de la solidarité.
Effectivement, la solidarité est quelque chose d'important, et je dirais la solidarité sur le moment proprement dit, mais aussi la solidarité dans l'imaginaire. C'est-à-dire qu'en fait, je crois que sur un des premiers intervenants, qui est Nando Parado, suite au crash des Uruguayens, dit quelque chose d'important dans son livre. À un moment, il dit « Le contraire de la mort, ce n'est pas la vie. Le contraire de la mort, c'est l'amour. » Et justement, à partir de ce moment-là, entre un processus, on vit pour l'autre. On vit littéralement pour l'autre. Et tout ce qu'on peut engager, qui échappe à la survie de nos propres corps, sachant aussi qu'on, là, on est encore dans la logique de Spinoza qui dit que on ne sait pas ce que peut un corps, là on s'en rencontre dans les histoires de survie, on va vivre pour l'autre, et c'est cette vie pour l'autre qui va nous permettre, à un moment donné, de se dépasser.
Mais dans le cas de Joe Simpson, par exemple, c'est pas tellement une survie pour l'autre, donc il a été accidenté, son compagnon de cordée a cru qu'il était mort, il a coupé la corde, et Simpson sort de la crevasse donc où il était tombé, il a la jambe cassée, et au prix d'immenses souffrances, il arrive à rentrer chez lui. Donc là, ça va être la question du courage, du face-à-face avec soi-même, comment surmonter cette incroyable douleur et faire des kilomètres avec une jambe cassée. Mais l'intérêt peut-être encore plus grand de cette histoire, c'est qu'il va pardonner à son compagnon de cordée quand il va retrouver la vie normale.
Alors, Simpson est pour moi l'archétype du survivant. Il évacue tout de suite l'espérance, il évacue tout de suite le fait qu'il puisse être sauvé par quelqu'un d'autre, et il ne peut compter que sur lui dès le départ. Et c'est ce qui va en fait galvaniser toutes ses attentions par rapport à lui-même. Parce que c'est inimaginable. À aucun moment il peut imaginer qu'on puisse venir le secourir dans les conditions dans lesquelles il est. Je rappelle rapidement, c'est un couple d'alpinistes, Simon Yates et Joe Simpson, qui partent escalader un des sommets au Pérou, une face ouest très violente, à peu près 1400 mètres d'apic complètement vertical, difficile. Ils vont atteindre le sommet, mais rapidement, ils vont s'apercevoir dans la descente qu'il est impossible c'est beaucoup plus compliqué qu'ils ne l'espéraient, pris par le mauvais temps. Joe Simpson est victime d'un accident très violent où il se casse la jambe vraiment d'une façon très violente. Il se retrouve suspendu dans le vide, on lui coupe la corde. Son ami Simon est obligé de lui couper la corde, et là, il tombe au fond d'une crevasse. Mais on n'imagine pas ce que peut être une crevasse. Et je crois que dans son récit, extrêmement bien fait, très fort physiquement.
Je crois que c'est un des plus beaux récits de survie qui ait jamais été écrit.
Pour moi, on est dans une écriture absolument de l'instant, complètement... On élimine le pathos. On est complètement dans la réaction d'un homme par rapport à une tragédie, mais au sens noble du terme, au sens comme on pouvait l'imaginer les Grecs de l'Antiquité. Il doit faire face. Il fait avec ce qu'il a et il ne peut compter que sur lui-même. Et c'est justement là que c'est intéressant dans son récit.
France Culture, tout un monde. Marie-Hélène Fraissé.
Expérience de survie également chez vous, Jean Eglin, dans votre roman, dans la forêt. Mais là, on n'est pas dans le registre de la coupure brutale. Il s'agit d'une vie qui change très progressivement, dans laquelle donc toutes les ressources se raréfient. Deux sœurs isolées dans la forêt et qui petit à petit voient leur univers se rétrécir comme une peau de chagrin et qui sont contraintes de retrouver donc des ressources et de déployer à la fois de l'inventivité, mais aussi une solidarité. On a l'impression que c'est un retour au basique de la relation humaine avec la nature et d'homme à homme ou de femme à femme en l'occurrence.
Exactly. Tout à fait. As these two sort of slowly, it's very different than Eric's story.
C'est très différent des histoires que raconte Eric.
As these two women slowly,
alors que ces deux jeunes femmes réalisent très progressivement qu'elles vont devoir survivre par elles-mêmes.
Waiting for somebody
quand
to save them.
Cessent d'espérer que quelqu'un viendra les sauver.
They've managed thus far. There's been enough food in their
leur père
in their home, and they've had shelter,
a préservé suffisamment
go
de nourriture.
Forever.
Elles ont un abri, mais elles disent que ça ne durera pas toujours.
So they find themselves in this kind of very gradual extremity.
Donc, elles but se retrouvent dans une situation extrême, mais de façon très graduelle.
That it's going to be
mais quand
up
elles
to
finissent
them,
par le comprendre, elles comprennent que ça ne dépend plus que d'elles et les décisions qu'elles doivent prendre alors et ce qu'elles choisissent vont déterminer
and
leur survie.
I think what they discover at that moment is
et je pense que ce qu'elles comprennent à ce moment-là, c'est que
the relationship that they develop between themselves,
ce sera la relation qu'elles
and
ont
also
entre elles,
the relationship that they
mais
can,
aussi la relation
create with the natural
peuvent
world
développer avec le monde naturel qui leur permettront de survivre.
Alors, il y a des images qui restent très fortes de ce roman. Par exemple, on pense aux poils, car elles vont, comme elles vivent dans la forêt, aller couper du bois. Elles ne vont plus avoir comme source et de chaleur et de lumière la nuit que ce poêle. Et je ne sais pas pourquoi on garde l'image de ces deux sœurs autour de ce poêle.
So there they are, huddled around the stove, and that's heat and light.
Oui, elles sont pelotonnées contre ce poêle. Et sa lumière diffuse la nuit.
The heat and light is coming from the forest. It's the trees that they're burning that are keeping
et
them warm.
And tout ça vient de la forêt puisque ce sont les arbres qu'ils brûlent qui leur tiennent chaud.
It also works as a sort of hearth to pull the two of them together.
C'est aussi une sorte de foyer qui les rassemble.
That heat and light, which is the only source.
Ils partagent cette chaleur et cette lumière et c'est la seule ressource qu'elles ont.
Alors pour la solidarité, il y a aussi un épisode qui est très fin, qui est très intéressant. L'une d'entre elles découvre après de longs jours comme ça de vie très frugale dans une petite boîte. Elle découvre, je crois que c'est deux chewing-gums ou deux pastilles et un petit morceau de chocolat. Et là, elle se pose la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que moi, je les mange tout de suite ou est-ce que je partage? Sachant que le plaisir que ça ferait à sa sœur de partager ses ultimes sucreries.
Yeah, I mean... Not only are these two human beings in extremity, but they're two sisters.
Bien sûr, ces deux sœurs sont non seulement ces deux personnages sont non seulement dans une situation extrême, mais ce sont aussi deux sœurs. Donc il y a ce lien d'amour très profond entre elles, mais aussi l'agacement et la rivalité qu'il peut y avoir entre deux sœurs. Et donc quand l'une d'entre elles découvre ces petites gourmandises qui dans d'autres circonstances seraient perdues au fond d'une poche et seraient complètement oubliées, et qui sont devenues incroyablement précieuses, elle tente de justifier ce qu'elle fait en supposant que sa sœur pensera ci ou pensera ça au sujet de ses gourmandises. Mais
I think it's kind of an example of how
pour moi, c'est un exemple de la façon dont nos valeurs et nos besoins évoluent quand nous nous retrouvons dans ces situations extrêmes. Et soudain, un tout petit morceau de chocolat peut devenir quelque chose d'énorme. Pas tant pour le plaisir et pour le goût, mais aussi en tant que symbole de ce qu'on partage ou pas.
Et alors, elle négocie, celle qui trouve les bonbons. Elle mange le chocolat, mais quand même, elle partage les bonbons. En s'excusant et en avouant à sa sœur, tu sais, j'ai mangé le chocolat. C'est minimal, mais c'est très fort sur le plan humain.
Ce que
je veux croire, c'est qu'il y a beaucoup de moments dans cette histoire où il y a des moments comme ça. Il y a ce sachet de thé qui est le seul qui leur reste et qui devient quelque chose de si précieux à leurs yeux. Bien sûr, si on perdait des sachets de thé aujourd'hui, on n'en ferait pas toute une affaire. Mais le monde physique, le monde matériel devient de moins en moins important et en même temps il devient absolument crucial. C'est en tout cas ces choses qui leur restent.
Et puis il y a l'arrivée de deux hommes. Premièrement, un jeune homme qu'elle connaissait, qui est lui aussi un rescapé. Et il va y avoir une histoire d'amour. Et puis lui va partir happé par cette espèce de mirage. On lui a dit qu'il y avait encore une vie possible à l'Est, donc il refait le voyage à l'inverse, de l'Ouest vers l'Est, voyage illusoire, et donc il s'en va. Et puis il y a la brutalité, la violence, un autre homme qui arrive et qui viole l'une des deux sœurs, lui aussi un rescapé.
So it's the story of the two sisters.
And c'est l'histoire des deux sœurs et
l'une
des choses qui menace leur relation, c'est l'arrivée du premier jeune homme.
Wants to sort of quand il arrive,
that Western migration, but back to the east, effectivement recréer cette migration, mais en sens inverse, en repartant de l'Ouest vers l'Est, avec cette même idée qu'il y a ailleurs une promesse de vie. Et cette fois, ce n'est plus à l'Ouest, mais à l'Est. Et il veut qu'une des deux sœurs l'accompagne.
Big challenges that she faces in the story is
une des grandes questions qui se pose à elle dans l'histoire, c'est
her romantic heart and go with
doit-elle suivre son inclination et suivre cet homme qui l'attire beaucoup ou rester avec sa sœur.
And so that's a huge challenge. And then later on,
une énorme question qui se pose à elle.
When her sister is raped, there's another huge challenge because
sa sœur est donc violée et il y a un autre grand défi qui se pose à elle puisque il y a maintenant une situation émotionnelle extrême qui correspond au reste de l'extrémité de la situation.
Alors, ces situations extrêmes vont correspondre également, et c'est très intéressant à la fois dans le roman de Jean Hegland et dans les récits que vous rassemblez Eric Millet dans Survivre. Il y a des transgressions donc qui vont être pour les survivants que vous évoquez. Il y a par exemple l'épisode donc de l'avion crashé dans les Andes. Évidemment, il y a la question de va-t-on manger les morts ? La question de l'anthropophagie. Et c'est une question qui est revenue très souvent dans les récits de survie.
Absolument, et on n'en a pratiquement jamais parlé.
Le radeau de la Méduse.
Absolument.
Mais il y a des choses plus récentes, oui.
Il y a des choses plus
récentes. Il y a un immense tabou là-dessus.
Oui, absolument, complètement. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait aussi l'objet du récit de Pierre Viau, là, du début du XVIIIe siècle, où effectivement, on s'est demandé pendant longtemps si c'était vrai, si c'était pas vrai, etc. Parce qu'il y avait complètement un déni de cet acte. À un moment donné, je veux dire, le processus vital se met en marche. Et quand on a d'autres ressources que de manger de la chair humaine, eh bien, je dirais, pour des problèmes de conservation, on est obligé de le faire. Et c'est ce qui est intéressant, d'ailleurs, dans le premier récit de Nando Parado, c'est à un moment donné où il y a cette description, ces quelques lignes, où il aperçoit, chez un de ses camarades blessés, cette plaie ouverte, avec cette odeur de sang, alors qu'il n'a pas mangé depuis une semaine.
C'est en quelle année, Nando Parado ?
Nando Parado, c'est 1973. Donc c'est relativement récent. Et un très bel extrait du texte, où on sent que de toute façon, ils sont poussés par cette force de survie qui leur échappe complètement, où ils vont de toute façon commencer à découper les morts, qu'ils ont alignés les uns à côté des autres, à côté de la carlingue. Je répète qu'on est à 3600 mètres d'altitude quand même. Hein. Donc les corps sont dans un parfait état de conservation, pratiquement congelés. Donc ils vont commencer à découper des parties charnues, du type des cuisses ou des fesses, et commencer à les manger. Ils n'ont rien pour faire du feu, je précise que c'est important. Donc ils vont manger de la viande crue, mais cette viande va commencer à les satisfaire au niveau physiologique. Et c'est d'ailleurs ce qui va les sauver.
Mais c'est la culpabilité qu'ils garderont définitivement.
Alors, ils auront effectivement ça. Et c'est ce qui est intéressant dans le récit de Parado, c'est qu'il a mis 30 ans à l'écrire.
Alors, dans le roman de Jean Eglin, il y a une autre transgression qui est très intéressante, beaucoup plus soft. Mais après le viol d'une des deux sœurs, ces deux sœurs vont faire l'amour d'une manière, dans le roman, que vous décrivez comme guérisseuse. Ça va contribuer à faire revenir la vie. Ça se passe une seule fois et vous n'avez pas hésité à décrire cette scène. Ça a dû vous poser des problèmes. Vous avez dû hésiter avant d'écrire cette scène.
As I was writing it, I imagined that moment.
Quand j'écrivais cette scène, j'ai imaginé ce moment. Il m'est apparu vraiment de façon très vive et je l'ai vu vraiment comme quelque chose de crucial pour le processus de guérison. Les deux sœurs, à ce moment-là, sont complètement détruites émotionnellement. Elles ont tout perdu.
One of them has been raped.
L'une d'entre elles a été violée.
They've lost sort of hope of returning to the life that
they. Elles ont perdu tout espoir de retourner à la vie qu'elles.
They had assumed would be theirs, and
dont elles pensaient qu'elle serait la leur.
Really close to suicide.
Elles sont au bord du suicide.
They needed some
et j'ai pensé qu'elles avaient besoin d'une manière de se reconnecter aux joies physiques, corporelles de la vie. Et dans la situation où elles étaient, la seule chose qui leur restait, c'était les deux, c'était l'autre. Et quand je l'écrivais, je n'ai vraiment pas pensé que c'était un énorme tabou qu'elles étaient en train de transgresser. Après l'avoir écrit, et quand j'ai commencé à entendre les questions de certains lecteurs, j'ai compris que j'avais perturbé les gens sur quelque chose de très profond. Et je crois que j'ai fini par comprendre que la façon dont je les bousculais, en fait, si vous définissez cet événement comme de l'inceste, par définition, c'est quelque chose de terrible. Ça signifie que quelqu'un qui a plus de pouvoir dans une relation extrêmement intime, celle de la famille, profite de quelqu'un qui est vulnérable. Mais ce n'est pas du tout comme ça que j'ai vu les choses. Je n'ai pas vu ça comme une relation incestueuse et elles réagissent toutes les deux en égales.
Merci à tous les deux. On aura compris que ces récits de survie, que ce soit de la fiction ou des aventures vécues, effectivement, sont troublants parce qu'ils vont au-delà des limites. Et il pose beaucoup d'interrogations. Alors, je rappelle les titres de vos deux livres. Dans la forêt, ce magnifique roman de Jean Eglin, paru aux éditions Gallmeister. Et les récits Survivre, témoignages, dans la collection Omnibus, par Éric Millet.
«
Alors on finit avec la bande-annonce du Territoire des Loups, Tout un monde, le magazine des cultures. À la prise de son, Valérie Lavalard, à la réalisation, Vanessa Nadjar. Tout un monde chaque samedi, avec la collaboration de Claude Armand de Castillo, vous est proposé par Marie-Hélène Fraisset. À consulter notre page Tout un monde sur le site franceculture.fr. France Culture, où vous avez rendez-vous avec Vincent Charpentier.